RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Nouvel épisode de cette opération Oka UTMB Mont Blanc avec toujours mon acolyte de toujours, mon acolyte préféré, même, je dirais, Johan Durand, futur trailer.
Salut Amin, ça va? Impeccable.
Ouais, ça va, et toi? L'air frais de Chamonix.
Ah bon, l'air frais nous fait du bien. C'est... on est bien là.
C'est clair.
Pas trop chaud, pas trop froid, c'est
va.
Parfait.
En plus, on est bien à l'abri.
On
avec
est
ce plateau,
et puis ouais, on est
délocalisé pour l'occasion.
La vue sur les montagnes.
En plein cœur de Chamonix.
On va pas se plaindre. Vraiment,
magnifique.
On est bien.
Je vous le rappelle, d'ailleurs, vous pouvez venir voir ce podcast en direct à Chamonix, à l'Oka Base Camp. N'hésitez pas, on vous accueillera les bras ouverts. Et pour ce nouvel épisode, on va parler de nutrition. Là, on va tendre les oreilles parce que j'ai un ami à ma droite qui prépare un trail l'année prochaine.
Alors, il va falloir qu'elle me drive bien, notre invité.
Et pour le coup, j'ai l'honneur d'accueillir Nouchka Diet. Comment tu vas?
Ça va, merci. Je suis contente d'être là avec vous, les gars.
Eh bien, nickel. On va parler de nutrition avant, pendant et après la course. Eh bien, du coup, attachez vos lacets. Enfilez vos baskets, c'est l'heure de parler au KUTMB Mont Blanc. Bien, c'est parti, Nouchka. Merci d'être ici.
Ouais, il fait beau. J'entendais dire qu'il faisait pas trop chaud. On a eu une chaud ces dernières semaines quand même.
C'est
là, c'est la première semaine où il fait plutôt bon. C'est redescendu un peu, ça fait du bien.
Ah, nous, on vient de Paris. Johan vient de.
Moi, j'étais bizarre.
Ah ouais, t'étais en Espagne.
Chaud, ouais.
Moi, j'avais chaud pour le coup. Ouais.
C'est clair. Toi, tu viens de la région, t'es pas très loin d'ici.
Ouais, je suis à 45 minutes d'ici.
Oh, ça va, ça va. Et tu reviens tout juste d'un immense défi. Le GR5, la grande traversée des Alpes.
C'est ça.
Incroyable.
Plus qu'un défi, là. C'est...
Raconte-moi les chiffres, parce que j'ai vu, j'ai vu 35 000 mètres de D+.
Ça ouais.
m'a fait la boule au ventre.
Ça fait bientôt un mois tout pile que j'ai fini. Je suis arrivé le 28 juillet. La grande traversée des Alpes, c'est quoi? C'est une trace par le GR5, qui est un chemin de grande randonnée, de Thonon-les-Bains au bord du lac Léman jusqu'à Nice au bord de la Méditerranée. Et il y a 630 km et 35 000 mètres de dénivelé positif.
630 km.
Et 35 000 mètres de dénivelé positif. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est tout à l'heure en off, elle me disait les heures de sommeil qu'elle a dormi pendant son
périple.
Moins
de 15 heures, je pense, sur la grosse semaine. Le défi a duré 7 jours et 17 heures. Et en moins de 8 jours, je pense que j'ai dormi moins de 15 heures.
Moins de 15 heures sur la semaine.
2 heures par nuit à peine.
2 heures. Il y avait des nuits. La première nuit, j'ai quasi pas dormi tellement j'étais énervée, excitée et tout. Après, entre 3 heures, mais très saccadée. Et puis les deux derniers jours, j'ai pas du tout dormi parce qu'il fallait.
Il fallait cavaler pour battre le record.
J'avais le record en ligne de mire. C'était pas l'objectif principal, mais il était là. Et. Au début j'étais bien, plus ça avançait, plus il y a eu des difficultés. Et à la fin on s'est dit, bon bah si on veut tenter le record, il faut pas dormir là, il faut y aller.
Wow,
donc les 165 derniers kilomètres, on les a fait d'une traite.
Pas de sieste?
Si, sieste, mais pas de sommeil.
Micro-sieste.
J'ai dormi sur le bord du sentier, à l'arrache vite fait, par terre, voilà.
T'as pas eu d'hallucination à un moment donné?
Sur la fin, mais franchement, pas tant. Juste sur la fin, mais des trucs marrants, des petits cailloux qui se déforment, tu vois des gens qui font de la guitare à côté de toi, mais en vrai, des trucs tu sais que t'hallucines et c'est pas encore dangereux, quoi.
Ça fait peur quand même, moi. C'est quand les gens te racontent
un guitariste au sommet des Alpes à côté de toi.
Christophe Maé, qu'est-ce qu'il fait là?
Je disais à mes potes, les gars, il y a quelqu'un qui fait de la guitare là. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi?
Ah oui.
Oh, ça fait flipper. Ouais. Et alors, la récupération, comment ça se passe? Tu disais que t'avais assez mal aux jambes au début.
Ouais, ça a été compliqué. D'habitude, quand je fais un ultra, entre 15 et 30 heures de course, au bout de 2-3 jours, j'arrive déjà à recourir. Je suis bien, mon sommeil il se régule. Et là, ça a été un peu chaud. Pendant une semaine déjà, je pouvais rien faire. Je me couchais, je dormais, je pouvais rien faire du tout. La deuxième semaine, j'ai essayé de me rebouger un peu, de rallumer l'ordi, mais c'était compliqué. Troisième semaine, j'ai fait un peu de vélo. Et là, on est dans la quatrième semaine, ça commence à aller, je recours un peu. Mais ça met du temps, quoi. C'est forcément, c'est traumatisant pour le corps. C'est pas anodin de faire ça, quoi.
T'es vraiment une ultra trailer aguerrie, hein, parce que pour recourir, enfin faire du sport après 3 semaines. Moi, quand je fais un semi-marathon, 10 jours après, je suis encore au lit. Et après 3 semaines, il faut à peine me sortir du lit parce que c'est compliqué.
Ce qui est dur, c'est enchaîner, musculairement, tous les traumas, mais aussi le manque de sommeil, retrouver une alimentation, retrouver une routine, tout.
Ouais, l'alimentation aussi. Pour le coup, j'ai perdu 5 kilos sur cette traversée. Alors, ce qui est marrant, c'est que à la fin, j'ai pris, je pense, 3-4 kilos. Si on voit les vidéos à l'arrivée, je suis pleine de flotte et tout. J'ai les jambes, c'est des poteaux, je fais de la rétention d'eau. Et une fois que j'ai perdu tout ça, j'ai perdu 5 kilos et je mangeais, ça remontait pas. Donc c'est aussi là où on voit que c'est pas quelque chose qui est anodin et qui est pas trop normal pour le corps aussi, quoi.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience?
Qu'est-ce que je retiens? Beaucoup de choses. Déjà que le corps et que l'homme est capable de faire quand même des choses assez dingues.
C'est clair.
Parce que c'est quand même beaucoup, quoi. Et surtout, moi j'ai vécu une aventure très humaine. En fait, c'était quelque chose de seul. Enfin, le record, je l'ai fait seul, je l'ai signé seul. Mais par contre, ça a été une aventure très collective. J'avais mon assistance qui était là, mes potes qui sont venus. En fait, à la base, je devais avoir un ou deux copains qui venaient courir avec moi tous les jours. Au final, tous mes potes qui sont venus au départ, ils sont jamais repartis. Ils ont dit leur taf, tu sais quoi, je prends une semaine et je reste. Et au final, on a tous partagé un bon moment. Et à la fin de la semaine, ce qu'on a tous retenu, c'est ok, le sport, même individuel, c'est ultra collectif et on se tire tous vers le haut, on s'inspire tous. Et ouais, ça a été hyper fort. Et derrière, quand je suis rentrée chez moi, j'étais toute seule, j'étais hyper triste, quoi.
La redescente, le blues.
On avait vécu
de...
un truc de fou tous ensemble une semaine et là, voilà.
Plus de défi, plus rien. Qu'est-ce qu'on fait?
Comment on s'alimente, justement, c'est le thème du jour, pendant une semaine où on va parcourir 600 km, 35 000 des plus, il n'y a pas de restaurant forcément au sommet des
au
Alpes.
Refuge.
Comment on s'alimente? Contrairement à... C'est un peu différent d'une course classique, même sur un ultra, quand je prends un dossard, tu calcules ton grammage en glucides par heure. Moi, sur une course jusqu'à 15 heures, je peux manger que des gels, compotes, et puis boire que des boissons iso. Là, c'est un peu différent. Je suis pas partie en me disant, je vais compter mes glucides. Ça a plus été ok, je vais essayer de m'hydrater régulièrement avec une boisson qui apporte des glucides, du sodium, parce que tu perds du sel, donc tu as besoin de quand même de compenser, c'est un effort qui est long. Les glucides dans la boisson, ça t'apporte aussi de l'énergie facilement. J'avais quand même des gels, compotes, barres, etc. Mais on a intégré beaucoup plus d'aliments plaisir, solide. Dès que je voyais mon assistance, donc ça variait, hein, mais en général c'était toutes les 4 à 9 heures en fonction des portions. Mais j'avais. Qu'est-ce que j'ai mangé?
C'est quoi l'aliment plaisir?
Alors le truc qui est trop bien passé à chaque fois, c'était les wraps Saint-Mauré jambon.
Ah ouais. Wow.
Trop bien.
Pas mal, j'avoue.
Et un truc que j'ai mangé vraiment quasi tous les jours, c'est des sushis.
Ah oui.
Ok, on digère bien les sushis?
Ah bah ouais, franchement, bah. Trop de la balle, j'ai voulu manger que ça tout le long. En plus,
faut bien les conserver quand tu les montes au refuge.
Si c'est dans le sac à dos toute l'après-midi du jour J.
Ouais.
Mais ça passe trop bien, t'as pas besoin de mâcher. J'ai mangé quoi? De la pizza aussi, de la polenta, du thon.
Ouais, comme quoi on peut se faire plaisir en plein effort.
Ouais.
Ah bah là,
il faut. Hein. Prendre tout ce que tu peux prendre et t'alimenter au maximum. Ouais. Et après, j'ai calculé un peu ce que j'avais mangé. Au final, ça me fait une moyenne à 60 grammes de glucides par heure. Ce qui est. Très très bien.
C'est clair. On le rappelle, Nouchka a publié le Nutri-Guide du sportif aux éditions Marabout, où justement tu prodigues tes meilleurs conseils pour les professionnels et amateurs sportifs, aguerris ou non, pour préparer un trail ou une petite course sur route. Et les meilleurs conseils sont dans ton livre, presque. T'allais dire un truc, Johan, t'allais intervenir.
Non, je voulais lui demander si elle savait combien elle avait perdu en termes de calories par jour.
Alors c'est une estimation. Moi j'avais le brassard cardio. Mais globalement, sur toute la semaine, 70 000 cal.
D'accord, ah ouais.
Ça fait 9 200 par jour.
Par jour. Donc t'imagines comment il faut toute la quantité qu'il faut prendre.
Et puis surtout que pendant, tu peux pas compenser. Digestivement, tu peux pas assimiler autant de calories. Donc c'est vraiment l'après où il faut faire un gros focus et vraiment beaucoup manger, quoi. Et puis sur l'avant aussi, je pense que sur un défi comme ça, aussi long, c'est un petit peu différent de quand t'arrives sur une course qui dure quelques heures ou un jour. Je peux pas arriver ultra affûté, quoi. Pas te dire j'arrive à mon meilleur rapport poids-perf, parce que sinon, en fait, tu sais que tu vas reperdre derrière de l'énergie. Donc je pense que sur ce genre de défi, c'est bien limite d'avoir 2-3 kilos en plus, quoi.
Alors justement, on va parler de conseils nutrition la semaine de compétition. On a les athlètes qui vont partir pour le format UTMB vendredi 17h45.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il faut faire attention à des aliments interdits ou presque?
Globalement, on fait pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude. Je dis souvent que l'alimentation, c'est comme l'entraînement, c'est comme le matériel. Tu vas pas partir sur ton UTMB avec des chaussures que tu connais pas.
Ouais.
Niveau nutrition, c'est pareil. Je dis ça peut paraître... logique, mais
bah oui, c'est pas le cas chez tout le monde.
J'entends quand même des dingueries.
Oui,
voilà. Donc voilà, je dirais que jusqu'à 3 jours avant, donc le départ c'est vendredi, jeudi, mercredi, mardi, voilà, jusque demain soir, jusqu'à mardi soir, on ne change pas grand chose, on reste sur une alimentation normale. Et en fait, à partir de 3 jours avant la course, l'objectif c'est de manger un petit peu plus de glucides. Pourquoi? En fait, pour augmenter. Ce qu'on appelle les réserves de glycogène. Donc le glycogène, c'est quoi? C'est des réserves de sucre qu'on a dans le muscle, dans le foie, et qui vont servir à apporter de l'énergie pendant l'effort. Et en fait, en mangeant plus, on peut en stocker plus, ce qui est intéressant pour retarder la fatigue pendant l'effort. Donc ça passe par plus de pâtes, plus de riz, pommes de terre ou quoi que sais-je dans l'assiette. Ça peut être des desserts un petit peu plus sucrés, genre du riz au lait, tu vois, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas forcément à manger plus, ça peut être d'intégrer de la maltodextrine. Comme ça, c'est facile, c'est des glucides que tu bois. Donc voilà, le premier objectif, c'est de manger plus de glucides. L'objectif, c'est pas de manger plus de calories. Donc à côté, on va réduire tout ce qui est riche en graisse. Okay. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est que les graisses, elles sont plus difficiles à digérer. Et ça, c'est un deuxième objectif quand on s'apprête à se lancer sur une course, c'est de réduire le risque de troubles digestifs. Okay. Donc on va réduire les graisses, on va réduire tout ce qui est riche en fibres alimentaires comme les crudités, les fruits, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, tout ça. Et globalement, si on fait ça, on est déjà pas mal. En s'hydratant bien.
Est-ce qu'il y a des habitudes différentes entre un routard qui va faire 30-40 minutes d'effort, comme sur un 10 km, et un ultra-trailer qui part pour 30-40 heures de course?
Bah, quelqu'un qui s'apprête à faire un 5-10 km, il n'a pas forcément besoin de faire de recharge glucidique, en fait. Parce que tu as besoin, quand tu vas fournir un effort, au-delà d'une heure 30, à peu près. Tes réserves de glycogène... normalement, à dose normale, elles te permettent de fournir un effort 1h30 sans t'alimenter. Donc ça sert à rien de manger plus de glucides avant un effort qui va être inférieur à cette durée, parce qu'en fait tu vas aussi stocker de l'eau et donc tu vas prendre du poids. Donc t'as pas plus d'énergie et en plus tu te trimbales 1 ou 2 kilos en plus. C'est pas très intéressant.
T'as des habitudes alimentaires toi avant une compétition comme un marathon justement, où là il y aura du réapprovisionnement, c'est un effort pour toi qui dure 2 heures un peu plus, 2h09 ouais. Quand t'es en pleine forme.
Ça dépend quand je suis en forme ou pas, ouais. Mais non, bien évidemment, ouais, sur marathon, fais attention quand même à ces 3-4 jours pré-compétitifs qui sont importants. Alors après, voilà, il y a aussi dans la préparation marathon tout ce qu'on va prendre. Moi je sais que l'alimentation aussi de mon côté doit garder une notion de plaisir à un moment donné dans la prépa, parce que 12 ou 14 semaines de prépa, c'est long, et j'ai besoin aussi de me faire plaisir, parce que sinon si c'est que de la contrainte, que ça soit dans l'entraînement et aussi dans l'alimentation où tu te prives, trouve que voilà, je suis pas dans les excès, mais je me permets de faire de temps en temps une pizza, un burger, des pancakes, un machin, un truc pour la notion de plaisir, et sortir un peu du pâte blanc de poulet, légumes, machin, truc. Et après effectivement le jour, enfin dans les derniers jours, comme disait Nouchka, moi je rajoute de la malto dans ma boisson pendant 3-4 jours, je fais un peu et des électrolytes, je fais attention à ce que je mange, j'enlève tout ce qui est toutes les fibres et tout ce qui est un peu dérangeant, parce que voilà, je sais que ça peut être très compliqué sur le marathon. Mais oui, on doit avoir une stratégie nutritive ultra importante. Ça sert à rien de s'entraîner comme un champion ou de vouloir s'entraîner dur si on fait pas la même chose aussi dans l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment ça fait partie de l'entraînement. Il faut que les gens en prennent conscience que il y a le côté entraînement pur, il y a le côté nutrition, il y a le côté mental, il y a tout plein d'aspects à entraîner, et l'alimentation en fait partie, parce que tu peux gâcher des compétitions, des marathons ou des courses, des semis, des 10K à cause d'une mauvaise alimentation, ça c'est une certitude.
Clairement, surtout quand on sait que la principale cause d'abandon justement sur des courses d'ultra endurance
comme
le trail, c'est les problèmes digestifs. Donc en fait c'est quand même bête d'avoir une prépa incroyable et d'ailleurs d'abandonner parce que tu t'as pas testé ta nutrition, t'as mangé trop de glucides, tu t'es pas assez hydraté, voilà.
Alors justement, pendant la course, sur ces épreuves de l'UTMB Mont Blanc, on a 8 formats différents. Pour certains, ils vont passer une nuit à l'extérieur, 2 pour la plupart d'entre eux. C'est une épreuve en semi-autonomie, donc on a le droit d'avoir une assistance lors des ravitaillements. Qu'est-ce que les proches doivent prendre dans leur petit sac à dos pour venir et apporter justement à leurs copains? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas prendre, forcément?
Je dirais que ça dépend déjà de ton niveau, entre le premier qui va claquer l'UTMB en moins de 20 heures et le dernier qui va, justement, comme tu le disais, passer 2 nuits dehors, on va pas du tout être sur la même stratégie. Les pros, si tu analyses un petit peu ce qu'ils font, il y en a qui consomment que de la boisson d'effort et des gels, et rien d'autre. T'en as qui consomment pas du tout de solide, rien, et ils restent vraiment sur le même truc.
Faut avoir l'estomac solide.
Voilà. Quelqu'un qui le fait en 2 jours, l'UTMB, tu peux pas lui demander de faire ça. C'est pas possible. Surtout qu'il va pas même avoir le même entraînement digestif, il va pas être en mesure d'assimiler autant de glucides. Donc ça dépend déjà de là où tu pars. Et après, qu'est-ce que tu peux prendre? Déjà, je pense que le trail, c'est un sport où on peut quand même relativement se faire plaisir. Évidemment, il ne faut pas manger n'importe quoi en trop grosse quantité, parce qu'après, derrière, tu as mal au ventre. Mais tu peux quand même, quand je vous disais ce que j'ai mangé,
Mais pour ça, il faut les avoir testés auparavant.
Il faut l'avoir testé. Et puis, il faut s'être entraîné d'un point de vue digestif. Si tu ne manges pas tous tes entraînements, parce que tu dis 2-3 heures de trail, j'ai pas besoin, je peux tenir, et du coup, tu testes jamais ta stratégie. Si tu pars sur le TMB et que tu te mets à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude, c'est compliqué.
Ouais, c'est...
C'est un peu comme une stratégie au marathon au final. Il faut avoir tes séchelles pendant la préparation.
Ah bah c'est exactement pareil, c'est la même chose. Ouais.
Ça va pas te changer quand tu vas passer au trail. Hein.
Non, bah.
C'est juste qu'il va pouvoir manger des pizzas et ça lui arrive pas trop sur le marathon. Quoi.
C'est ça, exactement. Non, mais après, c'est sûr que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ta stratégie de nutrition, elle doit avoir été testée. On le répète assez souvent. Et parce que le risque d'abandon et le risque de troubles digestifs. Et puis en vrai, il n'y a rien de pire pour un coureur quand tu te sens bien et que t'es bien et que d'un seul coup, t'as mal au ventre. Et là, tu te dis, waouh, l'enfer. Et puis en plus, après, tu sais pas s'il faut t'arrêter, si tu t'arrêtes. En plus, du coup, tu vas sauter les prochains ravitaux parce que tu oses plus prendre de glucides. Et puis après, c'est un peu l'engrenage, quoi.
Mais tu vois, un petit conseil vite fait qu'on peut donner à quelqu'un qui, en pleine course, commence à avoir des troubles digestifs. Moi, je leur dis, ok, vous arrêtez de manger et vous passez sur du liquide. Donc, boisson avec des glucides, ça peut être du soda sur les ravitaux. Si vous voulez manger quelque chose, peut-être plutôt des compotes, ça passe souvent mieux.
Ça passe mieux, ouais.
Voilà, mais on réduit, et puis s'il faut ne rien manger pendant 2-3 heures, on réduit l'intensité aussi, parce que les troubles digestifs sont aussi dus aux impacts, à l'intensité, au fait que ton tube digestif, il est plus assez bien irrigué. Donc on réduit l'intensité, on passe sur du liquide, et on croise les doigts.
C'est parfait. Il y a aussi le facteur jour J. Parfois, on a testé une stratégie de ravitaillement.
Oui.
Et le jour J, ça
arrive pas
parce qu'on est en altitude,
le
parce que la météo, le
la
stress,
météo,
etc.
Le froid sur le ventre. Ouais. Tu sais, des fois, t'as pas besoin de grand chose pour perturber la préparation. Ouais.
Parfois, tu peux avoir testé un gel, une compote qui passe super bien toute ta prépa, et puis au bout de 5 heures, tu peux plus te le voir.
Ah bah
c'est
pour
ça qu'il faut prévoir d'autres choses.
Il faut prévoir
plusieurs
d'autres
goûts, plusieurs textures, plusieurs marques différentes. Voilà.
Pour le jour J, une épreuve qui commence à 17h45 pour le format UTMB, ça fait long hein, pour attendre.
Quand tu es réveillé depuis le matin, tu dois attendre la course, c'est stressant.
Il y a le stress qui s'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger? Et à quelle durée, enfin combien de temps avant la course on peut manger?
Ouais, moi je pense qu'on peut donner deux stratégies. Forcément, il y a ceux qui vont se lever à 6-7 heures parce qu'ils sont stressés et d'autres qui arriveront à dormir jusqu'à midi. Donc tu vas pas avoir la même stratégie. soit tu fais un petit déj. Classique, le matin, pas trop riche en fibres, glucidique, entre 8 et 10 heures, et puis tu te refais un déj, vers 13-14 heures.
Okay.
Soit tu te fais un petit brunch, alors quand je dis brunch, c'est pas se faire une orgie alimentaire, on est ok, mais tu te fais un gros petit déj vers 11 heures, et puis tu te prends une collation vers 16 heures, un petit peu moins conséquente. Il y a les deux possibilités.
Donc on est sur une épreuve qui va durer 30-40 heures comme on l'a dit, est-ce que le manque de sommeil peut perturber aussi la flore intestinale?
Bonne question. Pourquoi cette question? T'as déjà eu écho de ça?
Non, mais disons que...
Lui, il s'inquiète de son sommeil.
Ouais, exactement.
Moi, alors, à mon avis, le manque de sommeil, ça va perturber autre chose avant de perturber ta flore intestinale, honnêtement. Ça peut être les hallucinations, on en parlait. Forcément, le manque de lucidité, derrière, t'es moins performant, parce que franchement, avoir des hallucinations, ça t'handicape. C'est pas cool. En vrai, c'est marrant et tout, on rigole. Entre nous, t'as déjà eu des alus, mais c'est pas normal. En vrai, normalement, si t'as des alus sur un truc qui dure 30-40 heures, c'est que t'as mal géré ton sommeil, c'est que t'es arrivé avec une dette de sommeil, que la semaine avant t'as mal dormi. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur le système digestif? Je pourrais pas te répondre.
Ouais, moi, je me dis surtout que je mange globalement à 21h, 22h. Et que
toi, tu vois.
Passer ce temps-là.
Okay. Est-ce que ça peut te perturber?
Si j'ai faim à 23h, je vais me coucher. Et je me réveillerai le lendemain et j'aurai encore faim. Mais bon, disons que j'ai pas passé ces 8 heures de nuit.
Mais t'es pas sur le même rythme. Là, tu vas manger en continu. Toutes les heures, tu vas apporter quelque chose. Ton rythme hormonal, il change aussi. Donc, je pense pas que le manque de sommeil puisse avoir un impact significatif là-dessus.
Eh bien, génial. Pourquoi courir 160 km? Je me demande des fois, parce que ça fait tellement de choses à préparer.
Ah, c'est sûr, hein.
C'est de la logistique. C'est clair, c'est de la logistique. J'en parlais ce matin avec Dorian, justement, qui va courir son premier UTMB dans l'OV. Il me dit, mais vous êtes trop des logisticiens, vous, en fait. Il y a trop de trucs, à penser. C'est pas juste tu prends tes baskets et tu vas courir, quoi.
C'est sûr. Là, c'est pas du tout le même effort quand tu pars.
Mais il faut le dire, on a fait des efforts, enfin la science a fait des efforts sur les connaissances en termes de nutrition. Et le fait de dire qu'on peut manger de la pizza, qu'on peut manger des sushis, c'est des choses qui étaient mal perçues plus ou moins il y a 15-20 ans, c'est ce que tu pourrais dire?
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 15-20 ans, on s'intéressait pas autant à la nutrition qu'avant. Et je pense que ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même atteint un seuil où on a globalement tout compris à l'entraînement.
Ouais.
Je veux dire, dans la recherche scientifique, on sait comment s'entraîner pour performer. Et du coup, ces dernières années, on cherche à optimiser d'autres leviers. Et la nutrition est un levier. À l'époque, moi, quand j'accompagnais je pensais aux basketteurs, aux handballeurs, quand ils voulaient perdre du poids, c'était terrifiant, quoi. Leur coach leur disait, vous mangez pas, et puis vous venez à 5h du mat avant l'entraînement,
en kawé, et on va faire un sauna.
Voilà, puis t'as perdu 2 kilos, t'es content. Par contre, t'as perdu 2 kilos
d'eau.
Et quand je leur ai expliqué le déficit calorique, c'était non mais tu me saoules avec ton déficit calorique, juste nous on va rien manger et puis ça va bien se passer quoi. Donc il y a eu quand même beaucoup de progrès je trouve, et puis surtout dans les sports d'endurance où on me disait avec les troubles digestifs, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même faire attention à ça, on s'est rendu compte aussi que bah, mieux tu t'alimentais, plus tu t'alimentais, plus tu performais, c'est corrélé à la performance, on le sait, plus de glucides égale plus de perf, c'est prouvé, donc derrière il faut réussir à le faire. C'est pas juste plus de glucides pour plus de glucides, si c'est pour que derrière tu les vomisses, il n'y a pas d'intérêt.
L'année prochaine, tu seras peut-être ici, en tant que coureur.
Exact.
Est-ce que tu as imaginé le format sur lequel tu seras aligné ? Que ça peut aussi changer la stratégie nutrition ?
Ah, complètement, mais je pense dans un premier temps, je vais rester dans des sphères assez proches de
du
marathon, tu vois, des 3-4 heures d'effort. Je vais pas démarrer directement par de l'ultra et un 160 bornes ou un.
Bah, ce matin, la MCC est partie, le vainqueur était autour de 3h30.
Ouais, donc, non, mais plutôt comme ça, parce que tu peux pas passer non plus d'un effort de 2 heures. À une certaine intensité, à un effort de 24 heures, c'est un peu un grand écart. Donc effectivement, j'irai assez de façon progressive, mais il y a toute cette partie, elle en parlait que Dorian disait, à savoir bah, toute cette stratégie de nutrition qui est hyper importante, stratégie, bah, comment tu gères tes allures, comment tu gères tes nuits,
matériel,
tout. La météo, c'est ça, elle va être ultra changeante entre des moments où tu seras dans la vallée et là-haut où ils annoncent peut-être un peu de pluie. Là.
Ouais.
C'est ultra compliqué, hein. Donc il y a tout à penser pendant un ultra. Donc, mais par contre, c'est le côté excitant. C'est vrai que c'est ce challenge qui est ultra excitant d'avoir 1000 leviers comme ça à aller chercher et à réfléchir. Ouais.
Et d'une année à l'autre également, tu peux dire, ok, cette année, j'ai un peu mal géré la stratégie nutritionnelle. Mmh. L'année prochaine, je pourrais augmenter ça ou je pourrais réajuster mes leviers pour justement mieux performer.
Ouais. Tu t'adaptes. Bah, tout de même, faudra faire des erreurs. Hein. Tu peux pas. Quand tu fais ton premier ultra, tu pars à la découverte. Hein. Donc, tu sais pas
en
exactement.
En général, ton premier ultra, il te marque.
Bah, voilà.
Tu te rappelles de ton premier ultra ?
Bah, ouais, je me souviens, c'était la Maxi Race, le tour du lac d'Annecy, 94 km et je sais plus, 5002. Et ça m'a marqué, j'ai souffert quoi. Et je me souviens que j'avais croisé Mathieu Blanchard à la fin. Il m'avait dit ah ouais, le premier ultra, tu t'en souviens quoi. Et du coup je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je connais pas grand monde qui me dit ouais, mon premier ultra facile, les deux années c'est trop bien passé, il y a rien eu quoi. Ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens font de plus en plus de trail, d'ultra. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'on a tous notre raison d'en faire, mais ça te permet aussi d'apprendre beaucoup sur toi-même. Tu vois, toi qui es dans le marathon, je pense que tu es sur marathon, mais tu te connais à la perfection. Tu te connais dans l'effort, tu te connais dans les allures. Donc, passer sur du trail, ça te permet aussi d'apprendre encore plus
de
sur
découvrir
ton corps et de découvrir d'autres choses. Quoi.
Complètement.
Juste avant toi, on a eu Catherine Poletti, la cofondatrice de l'OKUTMB Mont-Blanc, qui disait sa fierté d'avoir de plus en plus de femmes sur les différentes épreuves. On est passé de 15% il y a 15 ans à 27% l'année dernière. Toi aussi, tu es pionnière en ton genre en tant qu'ultra-traileuse, créatrice de contenu. Voir de plus en plus de femmes aussi, c'est quelque chose qui te rend fière, que tu souhaites pousser notamment ?
Ouais, moi je suis contente. Alors je fais toujours les choses pour moi, mais derrière, quand j'ai des femmes qui m'écrivent en me disant mais c'est cool en fait, ça montre qu'on est capable de faire ce genre de choses et je vais me défier, je vais tenter des choses, je trouve ça génial. Parce que peut-être que nous, les femmes, de façon générale, on a peut-être moins confiance en nous, on ose moins. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de femmes au départ d'Ultra Trail, alors que physiologiquement, on est plus fait pour ça. Donc c'est cool, je pense que les femmes prennent de plus en plus confiance, on leur donne un peu plus leur place, elles tentent, elles voient qu'elles y arrivent. Et moi, si sur les réseaux sociaux, par ce que je fais, je peux leur donner une petite impulsion, je suis trop contente.
Cette année, t'as pas pu participer aux épreuves de l'UTMB parce que je suis bien GR5, franchement
quoi,
t'as eu ta dose.
Je me suis levée, je me suis dit ouais, je suis trop contente de pas faire la MCC là. Je m'étais dit au début d'année, est-ce que je ferais pas une petite MCC un mois après? Et en fait, je suis trop contente de... J'aurais pu, mais je me serais reculé ma récup, ça aurait été stupide. Quoi.
Usant.
Ouais. On peut te revoir l'année prochaine, peut-être ?
Ici ? Ouais, je pense, l'an prochain.
Ouais. C'est coché sur le calendrier ?
C'est pas encore coché, parce que je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai envie de continuer dans l'ultra-endurance, j'aime beaucoup. Donc s'il y a une course de l'UTMB, ce sera un des petits formats, MCC ou OCC. Quoi.
Bah, nickel, merci à toi pour les conseils.
Merci à vous.
J'espère qu'ils ont trouvé écho auprès de toi, Johan.
Ah bah oui. Non, mais il faudra qu'on discute tous les deux parce que effectivement, c'est un peu un saut dans l'inconnu hein, quand tu passes comme ça de coureur un peu sur route, 10 km semi, marathon, à ultra trail ou même trail en façon générale, hein, quand tu passes de 2 heures ou 3 heures d'effort à 5-6 heures, c'est pas tout à fait la même alimentation.
Même au quotidien, je pense.
Bah ouais.
Parce que ta prépa est différente, t'as peut-être une dépense énergétique qui est plus importante, donc au quotidien, t'as plus faim. Il y a des choses qui, je pense, sont ajustées. Ouais.
Exactement.
Amis de RMC Running, Nouchka, merci à toi, merci de ta présence, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également retrouver cet épisode sur le compte YouTube RMC Running et pour voir également ce fabuleux plateau. Toute cette semaine, nous serons au plein cœur de Chamonix à l'Oka Base Camp. Vous pouvez également venir voir nos podcasts ici même à Chamonix. Et pour finir, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.